Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Chapitre 19. Description d'un dîner chez Monsieur Ralph Nickleby. Amusement auquel se livre la société avant, pendant et après. Tout le reste de la semaine, Mademoiselle Nagde cessa d'épancher sa rancune et sa bile. Ou plutôt, sa colère, loin de diminuer, ne fit que s'accroître d'heure en heure. Bien entendu que l'honnête courroux de ces demoiselles augmentait, au moins en apparence, avec les élans d'indignation de l'excellente vieille fille. Mais les accès en redoublaient chaque fois qu'on appelait Mademoiselle Nickleby au salon. Tout cela n'était pas fait pour rendre la vie agréable et digne d'envie à la pauvre fille. Aussi soupirait-elle après le retour du samedi soir, comme un prisonnier après quelques heures de répit de ses lentes et cruelles tortures. On lui eût donné le triple de la maigre pitance qui lui valait son travail de la semaine, qu'elle aurait encore trouvé bien chèrement acheté. Ce soir-là, donc, en allant rejoindre selon son habitude sa mère au coin de la rue, elle ne fut pas peu surprise de la trouver en conversation avec M. Ralph Nickleby. Mais elle le fut plus encore du sujet de leur entretien et du changement que M. Nickleby montrait dans ses manières et dans le ton radouci de sa voix.
« Ah, vous voilà, ma chère !» dit Ralph. « Justement, nous étions en train de parler de vous. »«
Vraiment ?» répondit Catherine, baissant les yeux, sans savoir pourquoi, devant le regard brillant mais glacial de son oncle.
« Je venais à l'instant même pour vous voir. Je voulais vous prendre avant que vous fussiez sortis. Mais votre mère et moi, nous nous sommes mis à parler d'affaires de famille. Et le temps a filé si vite. »«
C'est vrai, n'est-ce pas ?» interrompit Madame Nickleby, sans se douter le moins du monde de l'intention railleuse ni du ton caustique de Monsieur Ralph. « Sur mon honneur, je n'aurais jamais cru possible que... »« Catherine, ma chère, vous dînez demain chez votre oncle à 6h30. »
Toute glorieuse d'avoir été la première à apprendre à sa fille cette nouvelle extraordinaire, Madame Nickleby fit je ne sais combien de sourires et de signes de tête pour mieux faire sentir à Catherine toute la magnificence de l'honneur que lui faisait son oncle.
Puis, tout à coup,
elle tourna tout court pour aviser aux voies et moyens.
« Voyons, » dit la bonne dame, votre robe de soie noire fera très bien l'affaire. Et cette jolie petite écharpe, vous savez, ma chère, un bandeau uni dans vos cheveux et une paire de bas de soie noire. Mon Dieu !» s'écria Madame Nickleby, faisant un nouvel écart de conversation. « Si j'avais encore seulement ces malheureuses améthystes !»« Vous vous rappelez, Catherine, mon ange, comme elles étincelaient, vous savez. Mais votre papa, votre pauvre papa... Ah, il n'y a jamais eu de sacrifice plus cruel que celui de ma parure d'améthyste. »
Accablée par cette pensée pleine d'agonie, Madame Nickleby branla la tête de la façon la plus mélancolique et porta son mouchoir à ses yeux.
« Je n'en ai aucun besoin, maman, » dit Catherine. « Vous pouvez oublier que vous en avez jamais eu. »« c'est bon, ma chère, » reprit Madame Nickleby d'un air contrarié. Vous parlez là comme un enfant. 24 petites cuillères d'argent, mon beau-frère, 2 saucières, 4 salières, toutes mes améthystes, un collier, une broche, des boucles d'oreilles, tout cela est parti du même coup. Et moi lui disant, presque à genoux à ce pauvre cher homme, « Pourquoi ne faites-vous pas quelque chose, Nicolas ? Pourquoi ne faites-vous pas quelques arrangements ?» Certes, tous ceux qui ont pu nous connaître alors me rendront la justice que, si je ne lui avais pas dit cela 50 fois, je ne lui ai pas dit une. N'est-ce pas, Catherine ? Dites, ai-je jamais négligé une occasion de lui donner là-dessus un bon conseil à votre cher papa ?
C'est vrai, maman, c'est vrai. Et Catherine ne se trompait pas en répondant ainsi. Oui, vraiment, Madame Nickleby pouvait se rendre cette justice. Comme à peu près toutes les dames, je crois, qu'elle n'avait jamais perdu une occasion de donner à son mari de ces bons conseils qui vaudraient de l'or, s'ils étaient seulement plus clairs et plus précis, au lieu d'être enveloppés, comme les oracles de la Sibylle, d'un vague et d'un mystérieux qui en rendent l'application impossible.
« Ah !» dit Madame Nickleby avec transport. « Si on m'avait écoutée dès le commencement ! Mais c'est bon, j'ai toujours fait mon devoir, moi, et c'est une consolation !»
Madame Nickleby ne put arriver à cette réflexion sans soupirer, se frotter le dos de la main, jeter les yeux au ciel, prendre enfin un air de résignation angélique, comme une sainte, une vraie sainte, qui ne veut même pas ennuyer plus longtemps ses auditeurs à leur prouver une chose qui saute aux yeux de tout le monde.
« Maintenant, » dit Ralph avec un sourire qui, d'accord avec ses autres signes d'émotion, paraissait plutôt à fleur de peau qu'en plein visage. « Pour en revenir à nos moutons, j'ai demandé à dîner à quelques gentlemen avec lesquels je suis en affaire. » Et votre mère m'a promis que vous viendriez faire les honneurs de ma maison. Je n'ai pas grande habitude de ces parties-là, mais celle-ci est plutôt un rendez-vous d'affaires. Et quelquefois, les affaires ne se font bien qu'à l'aide de ces sottes convenances. Cela ne vous gêne pas de me rendre ce service ?
La gêner ? Cria Madame Nickleby. Ma chère Catherine, vous...
Permettez, dit Ralph l'interrompant en lui faisant signe de se taire. C'est à ma nièce que je parlais.
J'en serais fort contente, vous pouvez le croire, mon oncle, reprit Catherine. Je n'ai qu'une peur, c'est que vous ne me trouviez bien gauche et bien empruntée.
Oh que non, dit Ralph. Eh bien donc, vous viendriez comme vous voudrez. Vous prendrez un fiacre, je le paierai. Bonsoir, Dieu vous conduise.
Ralph eut bien du mal à expectorer ce souhait bienveillant qui semblait lui tenir à la gorge par défaut d'habitude. On aurait dit qu'il s'était foudroyé dans un cul-de-sac dont il ne pouvait plus se sortir. Pourtant, il finit par se faire un passage avec plus ou moins de bonheur. Nickleby, après d'en être sorti à son honneur, serra la main à ses parentes et les quitta brusquement.
« Quelle singulière physionomie que votre oncle !»
dit Madame Nickleby, frappée de l'expression de son regard en lui disant adieu.
Son pauvre frère était loin d'avoir les traits aussi prononcés. Il n'y avait pas la moindre ressemblance.
« Maman !»
dit Catherine d'un ton de reproche. « Comment pouvez-vous avoir de ces idées-là »
« Non, décidément !» continua Madame Nickleby tout entière à la même pensée.
« Pas la moindre ! Cependant, on ne peut pas dire que ce n'est pas une figure d'honnête homme. »
La digne matrone fit cette remarque avec de grands frais de gestes et de paroles éloquentes, comme s'il y avait dans son observation plus de finesse et de pénétration que cela ne paraissait. Et la vérité est que, sauf erreur, c'était en effet une des découvertes contemporaines les plus extraordinaires. Catherine leva les yeux avec vivacité et les baissa de même.
« À quoi donc rêviez-vous là, ma chère ? Au nom du ciel ! » demanda Madame Nickleby après qu'elles eurent fait un bon bout de chemin en silence.
« Oh, à rien, maman, je pensais. »«
Vous pensiez ? Ah, je crois bien, il y a de quoi !
Votre oncle s'est pris d'un goût singulier pour vous. Voilà ce qu'il y a de sûr. Et s'il ne vous arrive pas, après cela, quelque bonne fortune des plus extraordinaires, dites que je ne m'y connais pas. Voilà tout. » Et là-dessus, la voilà lancée en pleine anecdote sur les demoiselles à qui les des oncles d'humeur excentrique glissaient des milliers de billets de banque dans leur ridicule. Puis, encore sur d'autres demoiselles qui avaient fait chez leurs oncles la rencontre de gentlemen aimables. Et surtout énormément riches, qu'elles avaient épousées après quelques jours d'une cour ardente et passionnée. Et Catherine, après avoir commencé par écouter avec indifférence, puis ensuite avec intérêt, avait fini en arrivant chez elle par sentir s'éveiller dans son cœur quelque chose de la vivacité des espérances ambitieuses de sa mère. Elle se figura à son tour que son sort pouvait devenir plus heureux, que des jours meilleurs allaient luire pour elle. Voilà ce que c'est que l'espérance, baume céleste, dit-on, répandue sur les plaies des mortels. En effet, comme une essence subtile versée du haut des cieux, elle pénètre toutes choses, bonnes et mauvaises. Elle est universelle comme la mort et contagieuse comme la peste. Le faible soleil d'hiver, et Dieu sait si les soleils d'hiver sont faibles dans la cité de Londres, dut briller d'un éclat inaccoutumé en signe de réjouissance le jour où, perçant les sombres fenêtres de la vieille masure, il put assister au spectacle nouveau que présentait une des chambres mal meublées de ce bâtiment délabré. Voyez sous ce coin obscur, où depuis des années il n'avait jamais existé qu'une pile triste et inerte de colis marchands ensevelis dans l'ombre, le silence et la poussière, servant de retraite à une colonie de souris et accotée contre les lambris. Ce coin paisible n'était jamais troublé que par le roulement des charrettes pesamment chargées qui passaient dehors dans la rue, faisant trembler au-dessus les ballots et les caisses, et jetant l'alarme parmi le peuple souriquois dont les yeux brillants étaient illuminés par la peur et qui se tenait coi, l'oreille dressée, le cœur palpitant jusqu'à ce que le terrible tonnerre eût fait entendre ses derniers roulements. Eh bien, dans le coin obscur, vous pouvez voir à présent, rangé avec un soin scrupuleux, tous les petits atours dont Catherine doit se parer aujourd'hui. Chaque article de sa toilette portait le cachet de gentillesse personnelle que nous attribuons volontiers aux vêtements d'une jolie femme, même lorsqu'ils sont suspendus à son porte-manteau. Sommes-nous dupes en cela d'une association d'idées qui nous fait illusion, ou bien leur a-t-elle imprimé sa forme et son moule? Nous ne savons, mais ils conservent à nos yeux leur charme d'habitude. Ainsi donc, à la place d'une balle de riz moisi se trouvait alors la fameuse robe de soie noire, encore empreinte de la taille la plus élégante. Les petits souliers encore soulevés par l'orteil délicat qu'il pressait pèsent plus légèrement sur le sol tout à l'heure, gémissant sous une masse de fer. Et la pile de cuir avarié avait, sans le savoir, pour successeur, la fine paire de bas de soie noire, si chère au cœur de Madame Nickleby. Quant aux rats et aux souris, il y avait beau jour qu'ils avaient crevé de faim ou émigré dans un nouveau monde, cédant la place à des gants, des bandeaux, des écharpes, des épingles à tête et une foule d'autres petits affiquets, non moins ingénieux à provoquer la poursuite des hommes que des souris et les rats à s'y dérober. Puis, au milieu de tout ce petit monde de séduction, se montrait Catherine elle-même. Et ce n'était pas le moins brillant des ornements inattendus qui avaient transfiguré cette vieille, triste et sombre ruine. À l'heure dite, l'heure de désir ou de crainte, comme le voudra le lecteur, Catherine était prête. Car l'impatience de Madame Nickleby était en avance sur toutes les horloges de ce bout du monde. Aussi sa fille avait mis sa dernière épingle qu'il n'y avait encore qu'une grande heure et demie avant qu'elle fût obligée en conscience de commencer sa toilette. Enfin, elle était donc complète en attendant l'heure, de plaisir ou d'ennui, qui finit par sonner son départ. Le porteur d'eau de la maison eut la complaisance d'aller chercher un fiacre sur place, et Catherine y monta, après bien des adieux à sa mère, bien des messages à Miss La Creevy pour la prier de venir prendre le thé avec sa mère, et partit en grande pompe et en fiacre. Et le fiacre, et le cocher, et les chevaux se mirent à rouler, trottiner, sautiller, fouetter, jurer, cahoter, tout ensemble, tant qu'enfin ils arrivèrent à Golden Square. Le cocher frappa avec le marteau de la porte un terrible «
qui n'était pas finie que déjà elle était ouverte.
On eût dit qu'il y avait un homme caché tout exprès, derrière, la main sur le loquet. Catherine s'attendait à trouver tout au plus pour recevoir Newman Nodge en chemise blanche, mais quel fut son étonnement de voir ouvrir par un laquais en livrée élégante, la même que portaient deux ou trois autres valets dans le vestibule. Elle ne se trompait pas cependant. C'était bien là la maison, le nom était encore sur la porte. Elle se décida donc à accepter, pour appuyer sa main, la manche galonnée qu'on lui offrait pour descendre. Elle fut introduite au premier, dans un salon sur le derrière, où on la laissa seule. Si elle avait été surprise en voyant apparaître le valet de pied, ce fut bien pis en regardant autour d'elle. Elle était tout abasourdie de la richesse et de la splendeur du mobilier. Les tapis les plus nouveaux et les plus moelleux, les tableaux les plus précieux, les glaces les plus chères, les ornements les plus somptueux qui laissaient l'esprit ébloui en suspens entre leur valeur individuelle et la profusion avec laquelle on les avait prodigués partout, appelés de tous côtés de ses regards. Il n'y avait pas jusqu'à l'escalier, du haut en bas, qui ne fût tapissé de décorations magnifiques et d'objets de luxe resplendissants, comme si la maison, regorgeant de richesses, n'attendait qu'un bibelot de plus pour déborder vers la rue. En ce moment, elle entendit à la porte une série de toujours suivie chaque fois de quelques sons de voix nouvelles dans la chambre voisine. Au commencement, on distinguait aisément le ton de celle de M. Ralph Nickleby, mais elle finit par être couverte aussi par le bourdonnement général des conversations particulières. Et tout ce qu'elle put deviner de positif, c'est qu'il y avait là un certain nombre de gentlemen qui n'avaient pas la voix harmonieuse, qui parlaient très haut, riaient à gorge déployée, et jurait plus souvent qu'elle ne l'aurait cru nécessaire si on lui avait demandé son avis. Mais après tout, c'est une affaire de goût. Enfin, la porte s'ouvrit, et Ralph en personne, mais cette fois sans bottes, il les avait remplacés par des bas de soie noirs et des escarpins, présenta sa figure de vieux renard. « Je n'ai pas pu, ma chère, lui dit-il à demi-voix en lui montrant de la main la chambre voisine, « venir vous voir plus tôt. J'étais occupé à les recevoir. Maintenant, voulez-vous que je vous y conduise ?»«
Dites-moi, mon oncle, » répondit Catherine un peu émue. « On le serait à moins, même avec plus d'habitude du monde, au moment d'entrer dans un salon où l'on ne connaît personne, sans avoir le temps seulement de se préparer.
« Y a-t-il des dames ?»«
Non, » dit Ralph d'une voix brève, « je n'en connais pas. »
« Faut-il que j'entre tout de suite ?» demanda Catherine, faisant un pas en arrière.
« Comme vous voudrez, » dit Ralph, haussant les épaules. « Tout le monde est arrivé, on va annoncer que le dîner est servi, voilà tout. »
Catherine aurait bien voulu qu'on lui fît grâce encore de quelques minutes, mais réfléchissant que son oncle pourrait bien calculer qu'en retour de l'argent qu'il avait donné pour le fiacre qu'il avait amené, elle lui devait bien au moins de l'empressement et de l'exactitude, elle se laissa prendre le bras et conduire au salon. Il y avait là, debout autour du feu, sept ou huit gentlemen tellement absorbés dans une conversation bruyante qu'ils ne la virent pas entrer, jusqu'à ce que M. Ralph Nickleby, en prenant un par la manche, lui dit d'une voix fortement accentuée, comme pour commander l'attention générale.
« Lord Frederick Verisoft,
voici ma nièce, Mademoiselle Nickleby. »
Le groupe s'ouvrit avec l'apparence d'une extrême surprise, et le gentleman interpellé par M. Ralph Nickleby montra en se retournant une toilette des plus à la mode, une paire de favoris aussi bien taillés que ses habits, une moustache épaisse, une tête à tout crin, une figure toute jeune.
« Eh ! » fit-il, « quel diable !»
En poussant ses exclamations, il fixa son lorgnon à son œil et son œil sur Mademoiselle Nickleby avec un profond étonnement.
ma nièce, milord, dit Ralph.
En ce cas, mes oreilles ne m'avaient donc pas trompé. Je me croyais en face d'une figure de cire faite au moule, voulut bien dire sa seigneurie.
Comment vous portez-vous, mademoiselle? Je suis charmé.
Puis il se retourna vers un autre gentleman du meilleur genre aussi, un peu plus âgé, un peu plus fort, un peu plus haut en couleur, un peu plus roué, et lui dit à l'oreille d'une voix très intelligible pour tout le monde que la petite était gentille en diable.
« Présentez-moi, Nickleby, » dit à son tour le gentleman qui s'était mis à son aise, le dos tourné au feu et les coudes sur la cheminée.
« Sir Mulberry Oak, » dit Ralph.
« Autrement dit, le plus rude jouteur de la bande, mademoiselle Nickleby, » dit Lord Frédéric Verisoft.
« Ne m'oubliez pas non plus, Nickleby !»
cria un autre monsieur au visage effilé et, en ce moment, enfoncé dans un fauteuil à dossier, tenant à la main un journal.
« Monsieur Pick !» dit Ralph.
« Ni moi non plus, Nickleby !»
cria un monsieur, le visage enluminé et le nez en l'air, qui se tenait à côté de Sir Mulberry Oak.
« Monsieur Pluck !» dit Ralph.
Puis, tournant sur ses talons, il alla prendre un gentleman qui avait un cou de cigogne et des jambes qui ne ressemblaient à celles d'aucun autre animal, et le présenta comme le très honorable Monsieur Snob. Puis, enfin, une tête grise, assise alors devant la table, le colonel Chowser. Le colonel, avec un autre invité qui n'était, à ce qu'il paraît, qu'un bouche-trou, et ne fut pas présenté du tout. Catherine fit deux remarques, dès le début, qui lui allèrent au cœur
et lui firent monter la honte au visage.
La première, c'est que tous les personnages ici regardaient son oncle avec un mépris outrageant. Et la seconde, c'est qu'ils mettaient dans leur manière avec elle un sans-façon insolent. Il ne fallait pas une grande pénétration pour comprendre que la seconde humiliation était une conséquence nécessaire de la première. Et ici, Ralph et Nickleby avaient compté sans son hôte. Prenez une jeune personne tout frais débarquée de sa province, aussi novice que vous voudrez pour les usages du monde. Et vous pourrez parier à toute assurance qu'elle trouvera dans son instinct naturel un tact aussi délicat pour juger des convenances et des lois de la nature, de la société, que si elle avait l'expérience d'une douzaine d'hivers dans le monde. Peut-être même en juge-t-elle avec un sens plus exquis, n'ayant pas eu le temps d'en émousser, comme bien d'autres, la finesse dans une longue pratique. Quand Ralph eut achevé la cérémonie de la présentation, il conduisit sa nièce, toute rouge de honte, au siège qui lui était destiné. En même temps, il n'oublia pas de s'assurer, par un coup d'œil jeté à la ronde, de l'impression produite par l'apparition inattendue de cette reine de la fête.
« Voilà un plaisir, Nickleby, qui n'était pas dans le programme !» dit Lord Frédéric Verisoft,
faisant passer son lorgnon de l'œil droit, où il était resté jusque-là en sentinelle pour observer Catherine, à l'œil gauche pour le braquer sur Ralph.
« C'est une surprise que vous avez ménagée, Lord Frédéric !» dit Monsieur Pluck.
« L'idée n'est pas mauvaise !» reprit sa seigneurie.
« Elle voit, elle seule, 2,5% de plus !»
« Nickleby, » dit Sir Mulberry Oak de sa voix rude et dure.
« Ne laissez pas tomber cette proposition et ne manquez pas de grossir d'autant les 25% ou n'importe quoi de votre compte. Je ne demande que moitié pour ma peine. »
Sir Mulberry assaisonna cette fine plaisanterie d'un rire enroué et finit en jurant par les membres de la famille Nickleby. Serment qui provoqua chez M. Pick et M. Pluck un rire inextinguible. Il riait encore quand on annonça que Madame était servie, et ce fut une occasion nouvelle de rire sans fin, car Sir Mulberry Oak, dans son transport de folle gaieté, escamota à Lord Frédéric Verisoft l'honneur de donner la main à Catherine pour la conduire en bas, à la salle du festin, en passant jusqu'au coude le bras de mademoiselle Nickleby dans le sien.
« Non pas où le diable m'emporte, Verisoft !»
dit-il à son ami en se glissant à sa place.
« Il ne faut pas tricher ici. Voilà 10 minutes que mademoiselle Nickleby et moi nous nous sommes fait des yeux cette promesse.
« Ha 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 !» dit en riant aux éclats l'honorable monsieur Snob.
« Charmant, délicieux !»
Piqué au jeu par ses succès, Sir Mulberry Hawk fit à ses amis des yeux qui supposaient une foule de choses les plus facétieuses du monde et conduisit Catherine en bas avec un air de familiarité qui soulevait dans sa poitrine de jeune fille une indignation si ardente qu'elle avait peine à ne pas la laisser éclater. Pour comble de contrariété, elle s'aperçut en arrivant qu'elle occupait le plus haut bout de la table entre Sir Mulberry Hawk et Lord Frederick.
Oh, vous avez trouvé moyen, à ce qu'il paraît, de venir vous établir dans notre voisinage,
dit Sir Mulberry à sa seigneurie, qui venait de s'asseoir près de Catherine.
Je crois bien, répondit Lord Verisopht, fixant les yeux sur Mademoiselle Nickleby. Comment pouvez-vous faire cette question ?
À la bonne heure. Mais occupez-vous alors de votre dîner, dit l'autre.
Et point du tout de Mademoiselle Nickleby et de moi, car je vous avertis que nous serions des interlocuteurs fort distraits.
Nickleby, dit Lord Frederick, j'ai besoin de votre intervention ici pour établir mes affaires.
Qu'est-ce qui se passe, Milord ?
Demanda Ralph du bout de la table où il était flanqué de Monsieur Pick et Monsieur Pluck.
Voilà un camarade qui accapare votre nièce, dit Lord Frederick.
Vous savez, Milord, dit Ralph avec un rire moqueur, qu'il prélève toujours une part raisonnable sur les biens auxquels vous pouvez prétendre.
Ce n'est que trop vrai, reprit le jeune homme. Le diable m'emporte si je peux reconnaître à présent qui est le maître de lui ou de moi dans la maison.
Je le sais bien, dit Ralph entre ses dents.
Vous verrez que je serai obligé de m'en débarrasser en lui léguant un shilling par testament, dit le jeune homme en plaisantant.
Non, non, je ne veux pas de cela, de par le diable, dit Sir Mulberry. Quand vous en serez réduit à un shilling, à votre dernier shilling, n'ayez pas peur, je ne vous donnerai pas la peine de vous débarrasser de moi. Mais, par exemple, jusque-là, je ne vous lâcherai pas. Vous pouvez m'en croire sur parole.
Cette saillie, fondée sur des faits irrécusables, fut accueillie par un hurrah général, dominé par les éclats bruyants de Monsieur Pick et Monsieur Pluck, et évidemment les deux flatteurs en titre de Sir Mulberry. Au fait, il était facile de voir que la plus grande partie des convives était venue à la curée du malheureux jeune lord, qui, malgré sa faiblesse et son esprit court, était, sans contredit, et de beaucoup le moins vicieux de la compagnie. Sir Mulberry Hawk était renommé pour son habileté à ruiner, par lui-même et par ses agents, de jeunes gentilshommes de riches conditions. Profession élégante et distinguée, où il était passé maître. Grâce à l'intrépidité de son génie sans pareil, il avait même inventé un système tout nouveau, le contre-pied de l'ancienne méthode. Une fois qu'il avait jeté le grappin sur une victime, au lieu de s'asservir à ses volontés, il se faisait un point d'honneur de lui imposer la sienne et d'exercer sur lui publiquement et sans réserve l'ascendant de sa direction. Ses dupes lui servaient ainsi de but et de plastron. Et, tout en vidant gentiment leurs goussets, il se donnait encore le plaisir de leur administrer de temps en temps quelques tapes bien appliquées pour l'amusement de la cantonade. Il ne manqua rien au dîner. Il répondit pour la magnificence de l'ensemble et de l'abondance des détails à l'ameublement de la maison. Et nous devons à la société en général, à M. Pick et M. Pluck en particulier, la justice de dire qu'ils se signalèrent par leur zèle tout particulier à faire honneur au repas. Ces deux messieurs surtout mangeaient de tous les plats, buvaient de toutes les bouteilles avec une capacité et une persévérance véritablement surprenantes. Et, malgré cela, il semblait que leurs travaux passés ne nuisaient en rien à la fraîcheur de leur appétit. Car, en voyant servi le dessert, ils donnèrent avec la même ardeur que s'ils n'avaient fait jusque-là que peloter en attendant partie.
« Ma foi,
dit Lord Frédéric, dégustant son premier verre de Porto. « Si c'est là un dîner d'escompte, je puis bien dire, où le diable me brûle, que je serais charmé de me faire escompter tous les jours. »«
Laissez faire, » repartit Sir Mulberry Hawk. « On ne vous en laissera pas manquer dans l'occasion.
Nickleby vous en dira quelque chose. »«
Qu'en dites-vous, Nickleby ?» demanda le jeune lord. « Est-il vrai que je doive être un jour une de vos bonnes pratiques ?»«
Cela dépend entièrement des circonstances, milord, » répondit Ralph.
« Oui, des circonstances où se trouve le crédit de votre seigneurie et du produit des courses de chevaux. »
C'était le colonel de la milice, M. Chaucer, qui était venu si malheureusement se mêler à la conversation.
Il jeta en même temps un coup d'œil sur M. Pick et M. Pluck,
s'attendant bien à les voir rire de sa bonne plaisanterie. Mais il en fut pour ses frais. Ces messieurs, qui n'étaient engagés comme clameurs qu'au service de M. Mulberry Hawk, gardèrent au grand désappointement du galant colonel une gravité de pompe funèbre. Ce n'est pas tout. Sir Mulberry lui porta le dernier coup. Ne voulant pas autoriser ainsi les gens à chasser sur ses terres, il regarda son adversaire fixement au travers de son verre, comme s'il était étonné de cette hardiesse, et exprima à haute et intelligible voix que c'était prendre des libertés diaboliques. Lord Frédéric, ainsi averti, prit son verre à son tour pour lorgner au travers le téméraire, comme si c'était quelque animal, quelque bête curieuse, montrée par son cornac pour la première fois. On pense bien que M. Pick et M. Pluck dévisagèrent de leur côté l'individu que M. Mulberry dévisageait du sien. En sorte que le pauvre colonel, pour cacher sa confusion, fut réduit à la nécessité de tenir son verre de Porto à la hauteur de son œil droit, affectant d'en étudier la couleur avec le plus vif intérêt.
Tout ce temps-là, Catherine était restée aussi silencieuse que possible, osant à peine lever les yeux,
dans la crainte de rencontrer le regard admirateur de Lord Frédéric Verisoft, ou, ce qui était bien plus embarrassant encore, le regard impudent de son amie Sir Mulberry. À la fin, ce fut ce dernier gentleman qui eut l'obligeance d'appeler sur elle l'attention générale.
« Voici Mademoiselle Nickleby, » dit-il, « qui se demande pourquoi diable n'y a-t-il personne ici qui lui fasse la cour ?»«
Non pas, monsieur, » dit Catherine, se hâtant de le démentir. « Je... »
Mais elle s'arrêta tout court, sentant qu'il valait mieux ne rien dire du tout.
« Je parie contre qui voudra un billet de 1 000 francs, » dit Mulberry, « que Mademoiselle Nickleby n'osera pas me soutenir en me regardant en face que ce n'était pas là sa pensée. »«
Je tiens le pari !» cria le noble oison.
« Je vous donne 10 minutes. »«
Je tiens !»
répondit Sir Mulberry. On mit les 2 billets de 1 000 sur la table, et l'honorable Monsieur Snob fut chargé du double office de garder les enjeux
et de regarder l'heure à sa montre.
« Je vous en prie, » dit Catherine dans la plus grande confusion en voyant sous ses yeux tous ces préliminaires. « Je vous en prie, point de pari à propos de moi. Mon oncle, je ne veux réellement pas. »«
Et pourquoi pas, ma chère ?»
reprit Ralph, dont la voix criarde, plus enrouée que d'habitude, montrait assez que la chose n'était pas non plus de son goût.
« C'est l'affaire d'un moment, il n'y a pas de mal, si ces messieurs y tiennent absolument. »
« Moi, je n'y tiens pas du tout, » dit Sir Mulberry en riant tout haut. « C'est-à-dire que je ne tiens pas du tout à ce que Mademoiselle Nickleby n'y le fait, car alors j'ai perdu, mais j'aurais eu le bonheur de voir ses beaux yeux, faveur d'autant plus précieuse qu'elle n'en a jusqu'à présent honoré que son assiette. »
« Pour cela, c'est vrai, et c'est par trop rigoureux de votre part, Miss Nickleby, » dit le noble lord.
« Une véritable cruauté, » dit M. Pick.
« Une horrible cruauté, » dit M. Pluck.
« Je ne crains donc pas de perdre, » continua Sir Mulberry. « J'aurais toujours gagné 2 fois ma perte si elle me vaut un regard passablement agréable de Mademoiselle Nickleby. »«
Comment 2 fois ? Plus que cela, » dit Pick.
Bien davantage, dit Monsieur Pluck. Combien ai-je encore à vivre, Snob? Demanda Sir Mulberry Hawk.
Encore 6 minutes.
Bravo!
Ne ferez-vous pas quelque chose pour moi, Mademoiselle Nickleby? Demanda Lord Frederick après un court intervalle.
Vous pouvez, mon cher Lovelace, vous épargner ces questions. Mademoiselle Nickleby et moi, nous sommes d'intelligence. Elle se déclare pour moi et fait en cela preuve de goût. Vous n'avez pas la moindre chance en votre faveur.
Combien, Snob?
Il n'y a plus que 2 minutes.
Apprêtez l'argent, dit Sir Mulberry. Vous allez me le passer.
Ha 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 ha! Cria en riant Monsieur Pick. Monsieur Pluck, qui enrichissait toujours sur lui, cria des ha 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 bien plus fort. La pauvre fille, qui était si couverte de confusion qu'elle ne savait véritablement où elle en était, avait d'abord résolu de garder une parfaite indifférence. Mais, gagnant de paraître encouragée par les prétentions insolentes de Sir Mulberry, exprimées dans des termes si grossiers et d'un ton si malhonnête, elle leva les yeux et le regarda en face. Et dans le regard qu'elle rencontra à son tour, il y avait quelque chose de si odieux, de si insolent, de si repoussant qu'elle se sentit incapable de balbutier une parole. Elle leva le siège et sortit précipitamment de la salle. Elle eut bien de la peine à retenir ses larmes jusqu'en haut de l'escalier, où elle leur donna un libre cours.
« Excellent !» dit Sir Mulberry Hawk, en pochant les enjeux. « C'est une fille de caractère, et nous allons boire à sa santé !»
Il va sans dire que Pick et compagnie acceptèrent avec chaleur cette proposition, et que le toast ne passa pas sans quelques insinuations supplémentaires des deux associés sur la future victoire de ce grand conquérant des cœurs. Ralph, qui avait profité de l'attention que prêtaient tous les autres aux principaux acteurs de la scène précédente pour les dévorer des yeux comme un loup, semblait, depuis que sa nièce était partie, respirer plus à l'aise.
Il regardait passer les flacons à la ronde, et lui,
renversé sur sa chaise, promenant ses yeux scrutateurs d'un orateur à l'autre, à mesure que le vin les mettait en verve, il semblait fouiller dans leur cœur pour repaître sa curiosité maligne de toutes les sottes pensées qui les traversaient. Cependant, Catherine, dont personne ne troublait la solitude, avait repris par degrés son assiette ordinaire. Un domestique était venu l'avertir que son oncle désirait la voir avant son départ et lui avait en même temps fait entendre à sa grande satisfaction que la compagnie prendrait le café en bas. L'espérance de ne plus les voir contribua beaucoup à calmer son agitation. Elle prit un livre et se mit en devoir de le lire. De temps en temps, elle tressaillait en entendant ouvrir la porte de la salle à manger d'où s'exhalait un bruit sauvage de gaieté bruyante. Elle fut même une ou deux fois alarmée à l'idée qu'elle entendait des pas dans l'escalier. Tant elle craignait que quelque membre égaré de l'honorable société ne vînt troubler sa paix. Cependant, n'ayant rien vu qui justifiât ses craintes, elle avait reporté toute son attention sur son livre et finit par y prendre un si grand intérêt qu'elle en avait déjà lu plusieurs chapitres sans y songer, lorsqu'elle crut tout à coup entendre, avec terreur, la voix d'un homme prononcer son nom à son oreille. Le livre lui tomba des mains quand elle vit tout près d'elle, nonchalamment étendu sur une ottomane, M. Mulberry Hawk, que le vin ne devait pas avoir rendu plus honnête, car le cœur d'un gredin n'est que plus dangereux après boire.
« Quelle application charmante !» dit l'impudent. « Je voudrais seulement savoir si elle est bien réelle,
ou si elle n'était destinée qu'à faire valoir ses cils si longs et si doux. » Catherine regarda avec inquiétude du côté de la porte sans répliquer un mot. « J'ai le plaisir de les contempler depuis 5 minutes, » continua-t-il. « Ils sont parfaits, sur mon honneur. Je suis un grand maladroit d'avoir rompu par une parole le charme d'un si joli tableau. »«
Maintenant, monsieur, » dit Catherine, « faites-moi la grâce de vous taire. »«
Non pas, je m'en garderai bien, » dit Sir Mulberry, pliant son claque pour appuyer dessus son coude
et se rapprocher encore de la jeune fille. « Je vous jure, Miss Nickleby, que vous avez tort. Un esclave dévoué de vos charmes comme moi, c'est une cruauté infernale de le traiter comme vous le faites.
Vrai, ma parole.
Sachez, monsieur, dit Catherine, toute tremblante en dépit d'elle-même, mais parlant d'un ton indigné, sachez que votre conduite ne m'inspire que mépris et dégoût. S'il vous reste dans l'âme une étincelle d'honneur et de délicatesse, vous allez me quitter à l'instant.
Allons donc, dit Sir Mulberry. Qu'est-ce que veulent dire ces simagrées de rigueur excessive, ma belle enfant? Allons, soyons plus naturels, ma chère Nickleby, soyons plus naturels, n'est-ce pas?
Catherine se leva à la hâte, mais pas si promptement que Sir Mulberry n'eût pu la saisir par la robe et la retenir de force.
« Lâchez-moi, monsieur » cria-t-elle le cœur gonflé de colère. « Entendez-vous, à l'instant, et dépêchez-vous »
« Asseyez-vous, asseyez-vous, j'ai deux mots à vous dire. »«
Lâchez-vous, monsieur !»«
Je ne vous lâcherai pas pour un empire, » reprit Sir Mulberry, qui se remit sur pied pour la rasseoir.
Mais la jeune fille,
faisant pour se dégager de ses mains un effort désespéré, lui fit perdre l'équilibre et le fit tomber par terre tout de son long. Au moment où Catherine s'avançait pour sortir de sa chambre, M. Ralph Nickleby poussait la porte et se trouva en face de sa nièce.
« Qu'est-ce qu'il y a ? » dit-il.
« Ce que c'est, monsieur ! » répondit Catherine dans une agitation violente. « Voilà ce que c'est ! Sous ce toit, où moi, la jeune fille sans défense, la fille de feu, votre frère, je devais m'attendre à trouver partout protection ? J'ai été exposée à une insulte de telle nature que vous ne devriez pas oser me regarder en face. Laissez-moi passer !»
Ralph, en effet, baissa les yeux en rencontrant le regard d'indignation brûlante que la jeune fille fixait sur lui. Mais il n'obéit pas à son commandement. Et, au lieu de la laisser passer, il la conduisit à un fauteuil au fond du salon, d'où il revint trouver Sir Mulberry Hawk, relevé de sa chute, et lui montra la porte pour le faire sortir.
« Voilà votre chemin, monsieur !»
dit Ralph d'une voix étouffée qui n'aurait pas déparé le rôle d'un diable de l'opéra.
« Qu'est-ce que vous entendez par là ? »
demanda l'autre avec fierté. Les veines se gonflaient sur le front de Ralph comme des cordes, et les muscles de ses mâchoires s'agitaient dans une émotion pénible. Cependant, il se contenta de sourire d'un air de mépris et lui montra du doigt la porte une seconde fois.
« Est-ce que vous me reconnaissez pas, vieille brute ? » dit Sir Mulberry.
« Si, » répondit Ralph.
Le bandit élégant perdit son assurance sous le regard perçant du pêcheur endurci et prit le chemin de la porte, marmottant entre ses dents. Puis, là, il s'arrêta tout à coup, comme frappé d'une idée nouvelle.
« C'est le Lord qu'il vous fallait, hein ? Voilà ce qui vous défrise. »
Ralph sourit encore, mais sans desserrer les dents.
« Et pourtant, qui est-ce qui vous l'a amené ? » poursuivit Sir Mulberry. « Vous savez bien que sans moi, il ne serait pas à l'heure qu'il est dans vos filets. »« Le filet est assez plein comme cela, » dit Ralph. « Prenez garde qu'il ne s'y étrangle encore quelques poissons dans les mailles. »
Allez, vous seriez capable de vous vendre corps et âme pour de l'argent. J'ai tort de dire âme, le marché est déjà fait avec le diable.
Voulez-vous pas me faire croire que votre jolie nièce n'a pas été tendue ici comme un hameçon pour le jeune innocent que vous avez grisé en bas ? Bien que ce dialogue vif et pressé se tînt à demi-voix des deux côtés, cependant Ralph avait l'œil au guet pour s'assurer que Catherine, toujours à la même place, ne pouvait rien entendre. Son adversaire vit qu'il avait l'avantage du terrain et profita.
« Voulez-vous pas me faire croire que ce n'est pas ça ? Prétendez-vous que, si c'eût été lui qui fût venu occuper la place et non pas moi,
vous n'auriez pas fermé les yeux et les oreilles au lieu de vous faire vos embarras comme à présent ?
Là, là, mon Nickleby, tirez-vous de là ! Je vous dis, répliqua Ralph, que... « Si je l'ai amené ici, c'est pour aider à l'affaire. »«
Ah, nous y voilà, donc !» s'écria en riant Sir Mulberry. « À la bonne heure, voilà que je vous reconnais. »«
Pour aider à l'affaire, » continua Ralph de la voix lente et ferme d'un homme qui est sûr de ne pas dire ce qu'il voudra. « C'est que je savais bien qu'elle ferait impression sur le jeune niais que vous avez pris à tâche d'aider à se ruiner à grande guide. »
Mais...
Je savais bien aussi, je le connais, qu'il est incapable d'outrager la délicatesse d'une jeune fille et qu'à l'exception de quelques plaisanteries échappées à sa tête, il serait facile, avec un peu d'habileté, de le contenir dans le respect que méritent le sexe et l'honneur d'une femme, fût-elle la nièce de son usurier. Mais s'il entrait dans mes projets de l'attirer plus doucement par cet appât, je n'étais pas homme à jeter cette jeune fille en proie à la brutalité licencieuse d'un vieux débauché comme vous. Et à présent, j'espère que nous nous comprenons.
Vous n'avez pas dit le fin mot. C'est que vous n'avez rien à gagner avec moi.
Hé, 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 dit Sir Mulberry avec un affreux ricanement. Vous l'avez dit.
Ralph, pour lui faire répondre, avait tourné la tête et le regardait par-dessus l'épaule. Les yeux des deux coquins se rencontrèrent avec une expression de mépris réciproque qui semblait dire qu'ils savaient bien qu'ils n'avaient pas besoin de se rien cacher l'un l'autre. Puis, Sir Mulberry Hawk haussa les épaules et sortit tranquillement. Son ami ferma la porte et dirigea ses yeux inquiets du côté où sa nièce était encore immobile, dans l'attitude où il l'avait laissée. Elle s'était laissée tomber de tout son poids sur le canapé, et là, la tête appuyée sur le coussin, la face cachée dans ses deux mains, elle paraissait abîmée dans ses larmes, en proie à une agonie de honte et de douleur. Supposez Ralph entrant en créancier dans la maison de quelque misérable saisi pour dette. Il vous l'aurait, sans sourciller, désigné à l'huissier pour l'exécuter, quand c'eût été un père au lit de mort de son enfant.
Ne fallait-il pas traiter les affaires comme les affaires? Et l'homme n'était-il pas un débiteur en contravention, avec son seul code de morale, l'exactitude des paiements?
Mais ici, il avait devant lui une jeune fille qui n'avait commis d'autre crime que de venir au monde, qui s'était prêtée docilement à tous ses désirs, qui s'était résignée à de rudes épreuves pour le satisfaire,
et surtout qui ne lui devait pas un sou.
Et il se sentait mal à son aise et mécontent. Ralph prit son fauteuil à quelque distance de sa nièce, puis un autre un peu plus loin, puis il se rapprocha d'elle encore, puis encore plus près. Il finit par s'asseoir sur le même sofa et posa sa main sur sa main. Catherine retira la sienne et ses sanglots redoublèrent.
« Allons, allons, dit-il, laissons cela, n'y pensons plus. »«
Oh, de grâce, laissez-moi retourner chez ma mère, s'écria Catherine. Laissez-moi quitter cette maison et retourner chez ma mère. »«
Oui, dit Ralph. « Oui, vous allez y retourner, mais il faut auparavant sécher vos larmes et vous remettre. Relevons cette tête, là, là. »«
Oh, mon oncle, » reprit-elle en joignant les mains, « que vous ai-je fait? Que vous ai-je donc fait pour me soumettre à cette honte? Si je savais vous avoir offensé par quelque pensée, quelque mot, quelque action, votre conduite me paraîtrait moins cruelle. » Et pour moi, et pour la mémoire d'un homme que vous avez dû aimer, au moins dans votre jeunesse, mais... »
« Écoutez-moi seulement une minute, » reprit Ralph, si sérieusement alarmé de la violence de ses émotions. « Je ne me doutais point de ce qui est arrivé. Il m'était impossible de le prévoir. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Allons, faisons quelques pas. C'est l'air renfermé de la chambre et la chaleur de ces lampes qui vous ont fait du mal. Vous allez vous trouver mieux. » « Faites seulement le moindre effort. »«
Je ferai tout ce que vous voudrez me renvoyer, moi, chez nous. »«
Bon, bon, je vais le faire. Mais commencez par vous remettre. Dans l'état où vous êtes, vous effrayerez tout le monde. Et personne n'en doit rien savoir que vous et moi. À présent, quelques pas dans l'autre sens. Là, vous avez déjà meilleure mine. »
En lui donnant ses encouragements, Ralph faisait avec elle deux ou trois tours dans le salon et tremblait comme la feuille en la sentant s'appuyer sur son bras. C'est ainsi que bientôt, quand il jugea prudent de la laisser partir, il la soutint jusqu'au bas de l'escalier, après lui avoir arrangé son châle et pris toutes sortes de petits soins, probablement pour la première fois de sa vie. Il la reconduisit de même dans le vestibule sur le pas de la porte, et ne retira sa main qu'après l'avoir mise dans la voiture. La portière du fiacre, en se fermant rudement, fit tomber de la tête de Catherine son peigne aux pieds de son oncle. et quand il l'eut ramassée pour lui rendre, le gaz de la lanterne voisine donnait à peine sur le visage de la pauvre créature. Les boucles de cheveux qui étaient retombées éparses sur son front, les traces de ses pleurs à peine séchées, sa joue brûlante, son regard lugubre, tout ralluma dans le sein du vieillard une foule de souvenirs mal éteints. Il crut voir devant lui la figure de défunt son frère. Il reconnaissait dans ses yeux l'expression de ses douleurs enfantines, dont les plus minces détails venaient maintenant assaillir son esprit, aussi frais, aussi vivant que les souvenirs de la veille. Ralph Nickleby avait beau être à l'épreuve de tous les sentiments fraternels et des devoirs de famille, il avait beau être cuirassé contre toute sympathie pour le chagrin et le malheur, en regardant sa nièce, il n'en sentit pas moins ses jambes chanceler et n'entra pas moins dans sa maison comme un homme poursuivi par l'apparition d'un esprit de l'autre monde, le monde des tombeaux.